Vous écoutez
RMC.
Mardi 6 décembre,
l'info sur RMC.
Il est 7h sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. Le journal, c'est Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline. Bonjour à tous. Nouvel appel à la responsabilité et à la vaccination contre le Covid. Vaccination ouverte à tous, même si les consignes ne sont pas assez claires. C'est ce que dénoncent médecins et pharmaciens ce matin. Vous allez les entendre. À la une ce matin, la nuit en garde à vue pour Norman Tavo, le célèbre youtubeur, si plaignante dans une enquête pour viol. Et c'est un Brésil impressionnant qui s'est qualifié pour les quarts de finale du mondial hier soir en battant la Corée du Sud 4-1.
Le gouvernement en appelle encore à la responsabilité des Français.
Oui, puisqu'on est dans une triple épidémie, un Covid, grippe, bronchiolite. Les chiffres de la vaccination du Covid stagnent à un niveau très faible. 21% seulement des plus de 80 ans sont vaccinés. Et beaucoup de professionnels de santé dénoncent donc un manque de clarté concernant la deuxième dose de rappel au Covid ouverte à tous depuis la mi-novembre. La preuve écoutée avec Kevin Gasser pour RMC.
La possibilité de se faire vacciner une quatrième fois, ce n'est pas rentré dans toutes les têtes.
Non, je n'étais pas au courant.
Là, c'est pour une nouvelle dose de rappel, parce que je ne sais plus combien il y en a eu.
Même informé, Vincent n'en ressent pas l'urgence tant que ses proches fragiles sont, eux, vaccinés.
Je vais la faire vraiment s'il y a une neuvième vague importante. Si ça se calme, je ne le ferai pas.
D'autres pointent le manque de communication du gouvernement.
Je ne sais pas précisément comment faire si je souhaite faire une quatrième dose.
En fait, il pourrait y avoir un rappel via l'application. C'est bon, vous pouvez faire votre dose. Je pense que c'est assez facile à mettre en place.
Autre frein à la vaccination pour tous, l'exemple de cette pharmacienne qui applique encore de vieilles consignes.
Si elle n'est pas dans le cadre, on ne la vaccine pas. Sur Doctolib, j'ai appelé et je leur ai dit que je ne pouvais pas les vacciner.
Alors que le gouvernement nous expliquait hier que la vaccination était ouverte à tous, y compris les moins de 60 ans. D'ailleurs, la demande est bien là, constate le médecin André Seba.
Et les prises de rendez-vous explosent depuis une petite dizaine de jours.
Mais il lui arrive aussi de refuser la vaccination pour des personnes qui n'entrent pas dans les critères.
La vaccination sert à protéger les formes graves. On n'est plus dans une stratégie de diminuer la transmission du virus. Donc une vaccination générale pour maintenant.
Le généraliste vaccine pour l'heure une dizaine de personnes de moins de 60 ans par jour, avec un approvisionnement en doses de vaccins déjà en tension.
Et les pharmaciens qui alertent sur un manque de Doliprane, les formules pour enfants qui se vendent dans les boîtes roses, notamment en conséquence des tensions sur la molécule, le paracétamol en cette période de triple épidémie. Et pour ne rien arranger, eh bien le groupe Sanofi qui produit le Doliprane fait face à des grèves en ce moment sur les salaires. C'est ce que nous dit Jean-Louis Perrin de la CGT.
Tous les sites de Sanofi sont à l'arrêt, que ce soit la recherche, la production et la distribution, avec déblocage total des sites, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune entrée, aucune sortie. On a eu une communication de Sanofi qu'on mettait en danger les patients. Ça nous fait doucement rire. Après, même sans grève, il y a des ruptures d'approvisionnement. Maintenant, il est évident que les grèves chez Sanofi vont pas arranger la situation. Maintenant, Doliprane, c'est du paracétamol. Hein. Quand le patient va à la pharmacie, il n'est pas obligé d'exiger du Doliprane. Hein.
Aujourd'hui, c'est chez RTE que les syndicats appellent à la grève. Les syndicats veulent des hausses d'environ 7% des hausses de salaire. La direction du gestionnaire des lignes à haute tension leur propose à peine plus de 2%. Demain, il y aura encore grève à la SNCF, premier jour des négociations annuelles obligatoires. On a les premières prévisions de trafic. D'ailleurs, ce sont surtout les TER et les TGV intercités de la région de Bordeaux et de l'axe Paris-Lyon qui seront touchés. C'est tout le mois de décembre qui s'annonce compliqué à la SNCF. On a aussi un avant-goût de janvier. Tous les syndicats menacent de se mobiliser si le gouvernement ne retire pas sa réforme des retraites. Ils étaient réunis hier pour préparer la riposte. Concernant l'inflation maintenant, ça ne va pas s'arranger, prévient Michel-Édouard Leclerc, invité de BFM TV hier soir, qui donne des nouvelles des négociations commerciales sur les prix et qui alerte sur un risque de tsunami. Ce sont ses mots. Il accuse les industriels d'imposer des tarifs très élevés.
On a reçu à peu près un tiers des demandes de tarifs pour 2023. Par exemple, sur l'ultra frais, on nous demande en moyenne 14,80%. Sur les fromages LS libre-service, on nous demande 16,76%. Sur les pâtes, on nous redemande 11,73%, parce que les hausses passées, elles sont déjà passées. Hein. Et donc, on va négocier, on va demander de la transparence, de la justification. Et parce que pour moi, le truc, c'est d'accepter les hausses qui sont acceptables par le consommateur et explicables par un chef de rayon, une chef de rayon, une caissière, un caissier.
Et il est 7h04 sur RMC et Norman Tavo a passé la nuit en garde à vue. Norman Tavo, c'est une star d'Internet, un des premiers Français à avoir percé, comme on dit, sur YouTube en faisant des vidéos. Troisième YouTubeur de France encore aujourd'hui. Il est interrogé depuis hier pour des soupçons de viol et de corruption de mineurs dans une enquête ouverte il y a un an concernant six femmes, six plaignantes, manifestement sous l'emprise du YouTubeur Nicolas Traîneau.
Enfin, réagit la première plaignante sur les réseaux sociaux, soulagée que le dossier avance. Maggie reproche à Norman Tavo, numéro 3 des youtubeurs français, d'avoir profité de sa notoriété pour lui demander des photos dénudées. Elle avait 16 ans, lui en avait 30. Son témoignage pour corruption de mineurs a permis de recueillir 5 nouvelles plaintes pour viol depuis sa diffusion. Elle prenait la parole à visage découvert en 2020 sur un média canadien.
Vu que j'étais jeune, vu que j'étais fan de lui, pour moi, il n'y avait pas de problème au début. Dans ses propos, il était insistant. C'était la manipulation, dans le fond.
Maggie est actuellement à Paris et doit être confrontée à Norman Tavo devant les enquêteurs. Hier, la société Webedia, qui s'occupe de la publicité pour le producteur à l'allure d'éternel ado, a suspendu sa collaboration après des années de rumeurs. La militante féministe et youtubeuse Marie-Coquille Chambel dénonce des faits de pédocriminalité graves.
Ces jeunes femmes pouvaient se sentir un peu élues de parler avec leur youtubeur préféré. C'est clairement de l'emprise.
Le mois dernier, la justice a ouvert 2 enquêtes préliminaire à l'encontre d'un autre youtubeur, Léo Grasset, spécialisé science, pour des accusations de viol et de harcèlement sexuel.
Il y aura un débat sur l'immigration aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Pas de vote, mais chacun pourra exposer ses idées avant une loi attendue au printemps prochain. Le gouvernement entend mieux appliquer les obligations de quitter le territoire des OQTF, délivrées à tour de bras, dénoncent les associations. Seuls 10% sont suivis des faits.
RMC, Coupe du Monde 2022.
Et on aura donc une affiche Brésil-Croatie en quart de finale du Mondial. Ce week-end, c'était compliqué pour la Croatie qui s'est qualifiée au tir au but hier après-midi contre le Japon. Il y avait un partout après prolongation. Et c'était plus facile par contre pour le Brésil qui a largement battu la Corée du Sud 4-1. Neymar a rejoué, Neymar a même marqué sur pénalty. Et dans l'ensemble, Timothée Mémon pour RMC, le Brésil a impressionné.
S'il en était besoin, le Brésil a rappelé hier soir son statut de favori à la victoire finale dans ce mondial. La Seleção a déroulé face à une modeste équipe de Corée, ajoutant au spectacle et au plaisir le sérieux à sa prestation, comme l'expliquait Richarlison, attaquant et buteur hier.
On est entré dans le match dès la première minute. On a fait le travail en première période et ça nous a aidé par la suite. Maintenant, il faut bien se reposer, penser au quart de finale. Il manque 3 matchs pour atteindre notre objectif.
Soirée parfaite puisque le Brésil a aussi pu compter sur le retour de blessure de Neymar, buteur, passeur et homme du match. Le Parisien confirmait ses bonnes sensations.
J'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon bon début de saison. Se blesser comme ça, c'était très douloureux. J'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final.
Les Brésiliens affronteront donc en quart de finale la Croatie vendredi, finaliste de la dernière édition.
Et en attendant les deux derniers huitièmes de finale aujourd'hui, Espagne-Maroc à 16h et Portugal-Suisse à 20h, je vous propose de prendre des nouvelles des Bleus avec Fabrice Hawkins qui suit l'équipe de France pour RMC. Fabrice, c'était relâche hier avant de préparer le quart contre l'Angleterre.
Pas d'entraînement, pas de conférence de presse, journée 100% détente pour les joueurs de l'équipe de France. Pour la première fois, les Bleus ont même pu sortir de leur hôtel pour découvrir Doha. Kylian Mbappé a retrouvé son ami et coéquipier au PSG, Achraf Hakimi. La star des Bleus est allée voir le Marocain à son hôtel. Journée sous le signe de l'amitié pour Kylian Mbappé. Il a aussi passé un moment avec Ousmane Dembélé, dont la complicité se prolonge à l'extérieur du terrain. D'autres joueurs ont préféré aller faire les boutiques dans le quartier chic de Pearl. Matteo Guendouzi, lui, a flâné en famille dans un centre commercial localisé dans le luxueux quartier de Lousail. Enfin, pour certains, rien ne vaut un bon moment avec femme et enfants. Olivier Giroud s'est amusé avec ses proches autour de la piscine de l'hôtel des Bleus.
Voilà, piscine et shopping pour les Bleus avant le match de ce week-end de samedi contre l'Angleterre.
On est bien content qu'ils puissent se reposer un peu, non? Je sais pas, vrai. Ça me rassure, moi, de savoir qui se repose.
Parce qu'après, ça va s'enchaîner.
Qui se prépare. C'était le journal de Quentin Finet, il est 7h08.
RMC s'engage pour vous.
RMC à vos côtés. RMC s'engage pour vous avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour à
vous. Vous avez été contactée par Romain à l'adresse rmcpourvous@rmc.fr. Romain, qui est en litige avec Amazon.
Romain voulait devenir pilote d'avion, un rêve de gamin qu'il n'a jamais pu réaliser, faute d'avoir 10 sur 10 à chaque œil. Il est depuis devenu informaticien et passe tout son temps libre sur des jeux de simulation de vol. Pour ça, il a besoin d'un ordinateur super puissant. Alors lorsqu'il voit début octobre la Rolls-Royce des cartes graphiques en promotion sur Amazon, il fonce. 1 300 € au lieu de 2 800, une aubaine, commande qu'il reçoit quelques jours plus tard à son travail avec une petite surprise.
Quand j'ai reçu le colis, il n'y avait rien qui était choquant, le poids était là. Les dimensions du carton correspondaient également. Le carton, il n'avait pas de défaut. Quand j'ouvre le haut, je vois, une bouteille, quoi. Bon, ça ressemble pas à ce que j'ai commandé. On est tous un peu estomaqués derrière moi. Au départ, je me suis dit, mais c'est une blague ou c'est... Mais non, pour le coup, pas du tout.
Romain a reçu une bouteille de raki, un alcool turc d'une valeur de 40 euros. On est loin de la commande initiale. Photo à l'appui, il contacte Amazon qui lui propose de renvoyer le produit.
Ben, ne me dites pas que Amazon refuse de le rembourser.
C'est même pire que ça. Tenez-vous bien. Après enquête, Amazon lui explique que si, c'est bien une carte graphique qui lui a été envoyée et que s'il veut être remboursé, il doit renvoyer le produit qu'il n'a donc jamais reçu.
Je ne sais pas ce qui s'est passé chez Amazon, si ça a été un vol ou quoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas entre guillemets, c'est pas mon problème. Et le problème, c'est qu'Amazon, c'est nous, on est vraiment une toute petite fourmi et Amazon, c'est une grande termitière. Enfin, franchement, ça m'a bien dégoûté parce que j'ai toujours été un client fidèle et j'ai vraiment été reçu un peu comme un malpropre, etc. Alors que j'avais rien fait. Leur faute, elle est chez eux, elle n'est pas chez moi. Moi, je suis juste un client qui a ouvert un colis, c'est tout ce que j'ai fait.
Très compliqué quand même cette histoire. C'est lunaire. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour lui?
Alors, grâce à notre intervention, Amazon a réétudié son dossier. Il va donc être remboursé de l'intégralité de la somme d'ici quelques jours. En revanche, l'entreprise refuse de nous expliquer ce qui s'est passé. Il y a effectivement eu un problème, nous confirme-t-on, en nous précisant qu'il s'agit d'un dossier particulier, sans plus de précision. On ne saura donc pas où est passée la carte graphique de Romain.
Donc la carte graphique, non, mais au moins il va récupérer ses sous et c'est déjà pas mal. RMC pour vous, interrmc.fr, vous connaissez le chemin. Il est 7h11.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Pourquoi est-ce si difficile de trouver du Doliprane pour enfants en pharmacie, mais aussi de l'amoxicilline, le fameux antibiotique? Y a-t-il des ruptures de stock? On fait le point avec un pharmacien qui regarde ses rayons avec beaucoup d'inquiétude. Vous allez l'entendre. À tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h13 sur RMC, bon réveil à tous.
Le témoin RMC.
Le témoin RMC, c'est le pharmacien Pierre-Olivier Vario. Bonjour. Vous êtes pharmacien juste à côté de Dijon, en Côte d'Or, et vous êtes président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Est-ce que vous avez du Doliprane dans vos rayons?
Alors,
Doliprane enfant.
Ah voilà, donc du Doliprane enfant, ben écoutez, j'en ai pas du tout pour l'instant. J'en attends un carton depuis maintenant 12 jours.
D'accord.
Et on est contingenté sur nos volumes. Si vous voulez, moi j'en passe à peu près 90 flacons par mois. Oui. L'ANSM nous demande...
L'ANSM, c'est l'autorité du médicament?
C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament. Nous demande de faire attention à nos commandes et de ne recevoir qu'une partie de nos commandes, parce qu'il y a un contingentement, donc ils veulent que tous nos pharmaciens en aient, mais moins que ce qu'on devrait avoir. Mais sauf que moi, je n'en ai pas du tout.
Donc alors, vous n'en avez plus, vous attendez le carton, vous avez une date d'arrivée?
Ces jours-ci.
Voilà, c'est ça, c'est très flou, quoi. Ces jours-ci.
Oui.
Oui. Est-ce que vous avez échangé avec vos collègues? En fait, on va resituer tout ça. Hein. Ça fait depuis l'été qu'on nous parle de pénurie ou de tension possible sur le Doliprane. Mais pour ce qui est du Doliprane enfant, ça fait quelques jours visiblement que c'est particulièrement le Doliprane en sirop, le Doliprane enfant, qui est en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. J'ai moi-même témoigné dimanche soir sur les réseaux sociaux pour dire que je n'en trouvais pas pour mes enfants. Et depuis, tout le monde témoigne en disant qu'en effet, ils ont beaucoup, beaucoup de mal à en trouver et que c'est un peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire qu'il y a certains, j'imagine, de vos confrères, Pierre-Olivier Vario, qui en ont reçu plus récemment que vous, et donc pour qui il en reste encore un peu.
C'est ça, les cartons arrivent au compte-gouttes, et certains en ont, d'autres en ont pas, et on est en rupture, on l'est quelques jours, on en reçoit, on arrive à se dépanner avec un autre laboratoire qui fabrique aussi du paracétamol enfant sous forme de sirop, et on essaie de jongler comme ça, mais on perd un temps énorme à rechercher et à essayer de trouver ces médicaments.
Qui sont vos fournisseurs? C'est-à-dire, est-ce que vous vous fournissez directement auprès de Sanofi, qui est le laboratoire qui fabrique le Doliprane, ou est-ce qu'il y a des grossistes? Comment ça marche?
Alors, dans la vie idéale, les deux, mon commandant, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien commander en direct auprès de Sanofi qu'auprès d'un intermédiaire qui s'appelle les grossistes répartiteurs. Depuis maintenant quelques jours, la NSM a demandé que seuls les grossistes répartiteurs dispensent les médicaments aux pharmaciens.
Depuis quelques jours, pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'en effet, la tension était plus importante?
Exactement, exactement. Donc les grossistes répartiteurs sont plus à même de répartir de façon homogène sur tout le territoire, en fonction des pharmaciens qui livrent les produits. Donc alors, ce sont eux qui vont maintenant être en charge de répartir ces médicaments qui sont sous tension.
Le laboratoire Sanofi, qui est interrogé par le journal Le Parisien, dit que c'est d'abord dû à de la surconsommation. Sous-entendu, ce sont les parents qui ont acheté trop de Doliprane enfant pour faire des stocks. Moi, je précise d'ailleurs que le Doliprane que je cherchais à acheter dimanche, c'était sur ordonnance, donc c'était pas du tout pour constituer des stocks. Mais en l'occurrence, monsieur le pharmacien, est-ce que vous pouvez nous dire si oui ou non vous avez eu une sorte de vent de panique et des parents qui auraient voulu constituer des stocks et que ça pourrait être de leur responsabilité en quelque sorte?
Non, je pense qu'il ne faut pas dire ça. Je pense qu'on a des problèmes de tension d'approvisionnement du paracétamol depuis maintenant bien plus longtemps que quelques jours. Ça fait plusieurs mois, comme vous l'avez dit. Sur les formes adultes, on arrive à s'en sortir parce qu'il y a plusieurs acteurs et on arrive à aller d'un acteur à l'autre. Par contre, sur les formes enfants, où les acteurs sont très restreints, on n'arrive pas. Et j'ai pas augmenté ma consommation. Mes ventes.
Votre vente,
si,
quoi.
Si, elles ont peut-être augmenté de 10 ou 15%. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que l'été, où normalement c'est une période plus calme, et où les industriels font du stock, si vous voulez, puisque on va dire que les greniers se remplissent, puisqu'il n'y a pas beaucoup de demandes, il n'y a pas eu ça cet été. Parce que, dans le monde entier, avec la crise Covid, il y a eu une augmentation de la consommation de paracétamol mondiale. Donc effectivement.
Parce qu'il y avait plus de malades, et parce que dès cet été, il y avait plus de malades, et aujourd'hui, effectivement, on le voit bien, les chiffres de la grippe, les chiffres du Covid ou de la bronchiolite le montrent, trois maladies pour lesquelles notamment les enfants prennent en effet du Doliprane enfant. Deux questions à voir avec vous. L'une, c'est les alternatives. C'est-à-dire, si on est parent, qu'on vous entend ce matin et qu'on se dit, bon voilà, mon enfant est malade, il a de la fièvre ou il a de la douleur, mal aux dents, mal à la tête, mal aux oreilles, si c'est le cas d'une otite comme ma fille, est-ce qu'il y a des alternatives? Qu'est-ce que vous proposez aux parents?
Alors, en fonction de l'enfant et du poids de l'enfant, on peut essayer de trouver des alternatives. Il y a quelques fois, on a quelques boîtes de sachets de paracétamol. Mmh. Alors, les sachets ont tendance à être en rupture parce que l'aluminium qui sert à fabriquer les sachets est lui-même sous tension. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à avoir les sachets. Mais on peut éventuellement faire comme ça. On a aussi d'autres médicaments comme l'Advil ou l'Aspégic.
D'accord.
Que l'on peut dispenser s'il y a vraiment une urgence et s'il n'y a pas d'allergie ou d'intolérance à ces molécules. Et puis après, on essaye toujours d'en avoir. Moi, si vous voulez, j'essaye toujours dans ma pharmacie d'avoir quelques flacons, mais ça reste quelques flacons.
Et là, attendez votre carton. Je voudrais aussi une autre question quand même. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments? Parce qu'évidemment, le Doliprane enfant, c'est très emblématique. C'est un médicament de base qu'on a tous dans notre armoire à pharmacie. Est-ce qu'il y a d'autres médicaments dont vous sentez qu'ils sont en tension? Je pense aux antibiotiques, je pense à la question de la cortisone. Est-ce que c'est des médicaments sur lesquels vous voyez venir une tension également?
Les deux médicaments que vous venez de citer, enfin la cortisone, oui déjà, et puis dans les antibiotiques, oui tout à fait, en particulier l'amoxicilline pour l'enfant, une fois de plus, que l'on a du mal à avoir. Pour l'adulte aussi, c'est sous tension, mais l'enfant c'est quand même assez embêtant. Et puis vous savez, aujourd'hui les molécules qui sont en rupture ont été multipliées par 10 en quelques temps. Aujourd'hui il me manque plus de 2500 présentations de médicaments aujourd'hui.
Et dont des médicaments de base d'usage quotidien, quoi.
Dont des médicaments de base quotidien, dont des médicaments aussi importants que des anticancéreux, des insulines, des antidiabétiques. J'ai des ruptures partout.
Des ruptures partout. Merci pour votre explication, Pierre-Olivier Vario, qui est donc lui-même pharmacien à côté de Dijon et président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. N'hésitez pas, vous nous appelez au 3216, vous êtes parent, vous êtes pharmacien, vous êtes médecin, venez témoigner et nous dire si vous redoutez du coup dans cette période de tomber malade. Il est 7h20.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Et bien on continue à parler de votre santé avec l'épidémie de Covid qui prend de l'ampleur, mais la vaccination qui ne suit pas. À 7h40, l'invité du jour sera l'immunologue Alain Fischer. C'est lui qui était l'ancien monsieur vaccin. Il avait piloté la campagne de vaccination au plus fort du Covid. Il sera mon invité dans 20 minutes. Et avant cela, Emmanuel Le Chypre nous dira qu'EcoWatt n'est pas forcément la meilleure application pour guetter les coupures d'électricité. Et Arnaud Demange pirate le 32-16.
Apolline Matin.
L'indiscret RMC.
Les indiscrets, le rendez-vous du service politique d'RMC. Bonjour Hélène Terzian.
Bonjour.
Hélène, dernière ligne droite pour Éric Ciotti et Bruno Retailleau, les deux finalistes qui briguent la tête du parti LR. Et ce matin, Hélène, vous nous donnez leur plan d'attaque.
Allez, première arrivée, premier servi. Éric Ciotti, près de 43% des suffrages. Avant son challenger, il a eu droit hier, grand seigneur, à une visio avec tous les adhérents. Sa stratégie désormais, faire du chiffre. 2 à 3 déplacements par jour, Pyrénées-Orientales, meeting à Toulouse, Belfort, Mulhouse. Et puis, montrer ses muscles en s'entourant de poids lourds. Il sera jeudi soir à Paris au siège du parti avec Rachida Dati et Laurent Wauquiez qu'il veut propulser en candidat pour 2027. Le lendemain, il sera sûrement à 3 dans la ville, bien sûr, de François Baroin. Côté Bruno Retailleau, on ne veut pas faire de cette campagne une phase de poule pour la présidentielle. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de têtes d'affiche qui le soutiennent. Xavier Bertrand, que l'on dit rallié à Bruno Retailleau, ne sera pas à son meeting parisien demain. Le challenger ira en revanche taquiner son adversaire niçois dans le sud, jeudi à Marseille.
Bruno Retailleau qui, lui, veut cranter sur le fond.
Profiter de ces derniers jours pour montrer qu'il veut changer le parti en profondeur avec la mise en place de référendums internes sur les questions stratégiques du mouvement. En tête, comme le dit le Parisien, faut-il, oui ou non, une alliance avec Emmanuel Macron ? Manière de clarifier la ligne, nous dit son entourage.
Hélène Terzian du service politique d'RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h24 et c'est l'heure de l'économie.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel Le Chypre, EcoWatt, la fameuse appli dont on nous dit qu'elle va nous donner la pluie et le beau temps de l'énergie et des tensions d'énergie. Bah vous nous dites ce matin que c'est pas la meilleure application pour se préparer aux coupures d'électricité.
Oui, effectivement, EcoWatt a beau figurer en tête des applications les plus téléchargées, eh bien, elles n'auront au final qu'un service limité. Elle alerte les usagers du réseau électrique d'une possible tension sur le réseau national avec 3 niveaux d'alerte, hein, vert, orange et rouge. Et donc, les usagers peuvent savoir quand les éco-gestes sont nécessaires. Mais hormis cette fonction, l'application n'affiche pas beaucoup d'informations. Pour les utilisateurs qui cherchent davantage de précision, RTE propose une autre application déjà existante, ça s'appelle EcoDemix, qui permet d'obtenir un état du réseau, mais cette fois-ci non pas au niveau national, mais pour les régions et même les grandes métropoles. Si vous habitez Lille ou Paris ou Lyon, vous savez plus précisément si vous êtes menacé de coupure.
Du coup, on regarde où, si on veut savoir, si on veut anticiper.
Donc, EcoDemix, c'est pas mal, mais il y a aussi Enedis, qui est donc notre distributeur d'électricité, qui sort un site qui s'appelle coupuretemporaire.enedis.fr, qui permettra à chacun de visualiser les zones de délestage impactées par les coupures temporaires. Vous rentrez votre adresse et le site indique si des coupures sont prévues dans la journée, sachant que les informations sont actualisées 2 fois par jour. Et puis vous avez aussi des tas de conseils sur ce site pour anticiper la coupure temporaire, recharger vos appareils avant, etc. Et puis si vous avez un compteur Linky, vous pouvez, à travers l'appli de votre opérateur, EDF ou Total Energy, connaître exactement votre poids sur le réseau électrique et donc mieux maîtriser votre consommation et donc mieux gérer finalement vos coupures. Là, vous avez des informations demi-heure par demi-heure.
EcoDemix et coupure-temporaire.enedis.fr. 7h26, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
Attention. Demanche pirate, le 32-16.
C'est mon petit côté Bruno Le Maire.
J'ai peur quand vous arrivez dans ce studio. Arnaud Demanche qui est venu avec son plus beau col roulé. Arnaud, ce qui nous fait réagir les internautes et puis au 32-16 dans le standard, ce sont les Républicains qui envisageraient de porter plainte contre le JDD, le journal du dimanche, suite à un article où le journal se vantait d'avoir réussi à faire voter 2 chats. Au Congrès LR.
Oui, ils ont fait voter des chats pour prouver que le scrutin pouvait être truqué. Voilà, je resitue. Alors évidemment, ça fait réagir. À commencer par Benjamin Duhamel, notre éditorialiste politique de 19 ans. C'est un surdoué, hein, qui a été sympa, qui a mis sur pause sa partie de Mario Kart 8, alors qu'il était en tête dans le circuit du flipper de Waluigi. Et il nous a laissé au 32-16. On comprend pas vraiment. Pourquoi LR est fâché sur cette histoire de chat? Pourquoi poursuivre les 2 seuls êtres vivants qui s'intéressaient au congrès du LR en dehors d'Éric Ciotti et de Bruno Retailleau? Alors évidemment, dans l'idéal, il faudrait que des humains s'intéressent aux Républicains, mais en attendant, c'est quand même beaucoup mieux que rien. Pardon. Non, mais c'est vrai que si on était LR, on militerait pour que les animaux de compagnie puissent voter. Hein, c'est à peu près leur seule chance de s'éviter un bide aux prochaines présidentielles. Et alors, j'ai aussi pu joindre un des 2 chats. Ça, c'est une exclusivité RMC. Il y avait Minet et Mistigri, qui est le plus petit des 2. Donc, j'ai pu joindre Minet, qui m'a dit « Je ne suis pas un gros Minet, je m'appelle Philippe Bilzer et je suis magistrat et chroniqueur sur CNews. » J'ai juste la même voix que Gros Minet. Ça suffit maintenant. J'ai le droit de voter à droite. Alors, j'ai voté pour Éric Ciotti. Et c'est ma liberté d'expression, Madame de Malherbe. Et j'aimerais bien que sur votre radio d'imbécile, vous arrêtiez de m'assimiler à un tas de dessins animés, même si c'est aussi votre liberté d'expression. Bon, on va voir ce qu'on peut faire, Monsieur Bilzer, mais je ne garantis rien. À
Gros
tout à l'heure.
Minet. Il est 7h28. On vous retrouve, Arnaud Demanche, à 8h20. À tout à l'heure. 7h30 sur RMC et RMC Story, c'est l'heure du journal de Stéphane Genest. Bonjour Stéphane.
Bonjour Apolline, bonjour à toutes et à tous. Des précisions sur les coupures de courant cet hiver. Et ce que l'on apprend ce matin, c'est que les personnes sous respirateur à la maison ne seront pas épargnées. L'hiver sera chaud socialement. Les syndicats prêts à descendre dans la rue dès le mois de janvier si le gouvernement ne recule pas sur la réforme des retraites. Et puis Coupe du Monde de football, évidemment. Brésil, Croatie qualifiés pour les quarts de finale. Ce soir, le Portugal de Ronaldo notamment jouera son va-tout face à la Suisse.
On vous en parlait il y a quelques minutes avec Emmanuel Le Chypre. Les coupures d'électricité cet hiver, eh bien, ce matin, on a quelques précisions sur ce qui pourrait se passer.
Des précisions qui nous viennent d'Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Et c'est clair, il n'y aura pas d'exception dans ces potentielles interruptions de courant, pas même pour les personnes sous respirateur à la maison. Laurent Méric, le porte-parole du gestionnaire d'Enedis.
Ils sont non prioritaires, si je peux me permettre de le dire ainsi. Pour autant, on a une attention particulière à leur égard. On les prévient. Ils ont un numéro de téléphone dédié qu'ils peuvent appeler pour avoir toutes les informations nécessaires. Et à J-2, on va les appeler. On va leur envoyer un SMS, un mail. Et avec les pouvoirs publics et avec l'ARS, si on sait qu'ils vont être délestés et qu'ils ne peuvent pas prendre les précautions qu'il faut, alors on va envoyer quelqu'un. Éventuellement, on va les aider à aller dans un endroit qui ne sera pas délesté, de façon à ce que la garantie leur soit apportée, la plus grande garantie.
Voilà pour cet avertissement de Laurent Méric, le porte-parole d'Enedis. Il était invité de BFM TV. Et c'est dans ce contexte que RTE, qui gère les lignes à haute tension, est concerné par un mouvement de grève aujourd'hui. Les syndicats qui demandent une hausse des salaires de 7%, c'est loin des 2% que propose la direction. L'Agence nationale de sécurité du médicament annonce sa mise en examen pour tromperie. La justice qui enquête sur le changement de formule du Levothyrox, médicament contre les troubles de la thyroïde, produit par le laboratoire Merck. Des centaines de patients français avaient souffert d'effets secondaires comme des crampes, des maux de tête, des vertiges ou encore des pertes de cheveux. La grève, c'est bien la menace que brandissent les syndicats si le gouvernement soutient mordicus sa réforme des retraites telle qu'elle est envisagée, à savoir un départ à 65 ans pour celles et ceux nés après 1961. L'intersyndicale qui s'est réunie hier et qui prévoit un mois de janvier marqué par un conflit social d'envergure, Victor Joannin.
Oui, plusieurs confirmations après cette réunion. Premièrement, pour la première fois depuis 2010, tous les syndicats sont sur le front, y compris le syndicat le plus apte au compromis. La CFDT, très offensive, elle appelle comme tous les autres à descendre dans la rue contre une réforme jugée injuste et inutile. Deuxièmement, il n'y aura non pas une, mais plusieurs journées de grève dès début janvier. Les centrales syndicales ne veulent pas se faire prendre de vitesse par le gouvernement qui souhaite voir le projet de loi adopté au printemps. Leur objectif est de taper vite et fort en attisant la grogne déjà présente chez les Français à cause des problèmes de pouvoir d'achat et d'énergie. La réforme des retraites est l'étincelle qui peut déclencher un conflit social majeur, prévient une responsable de la CGT.
7h34 sur RMC et l'actualité ce matin, c'est aussi ce placement en garde à vue du youtubeur Norman Tavo. La star du web aux 12 millions d'abonnés est interrogée sur des faits de corruption de mineurs et de viol sur 6 plaignantes. On en sait un peu plus ce matin sur les circonstances de la mort de Jérémy Da Silva, cet homme de 39 ans, lynché par des habitants à la mi-octobre car soupçonné d'avoir cambriolé une maison d'un village des Alpes-Maritimes. Et là où il habitait, Pierre Bourgès, à la colle sur Loup, son visage faisait finalement partie du village.
Oui, ici, l'homme est défavorablement connu des forces de l'ordre pour différentes infractions de droit commun, dont rébellion. Une de ses amies d'enfance, que l'on appellera Anna, l'avoue, l'alcool pouvait le rendre violent et quand ça partait trop loin, les interpellations musclées. Mais pour elle, c'était le boucan. Boucan, c'est le surnom que lui donne son ami. Pour Anna, c'était la star, celui qui faisait rire la colle sur Loup, un village près de Nice où il a passé la majorité de sa vie. Ici, tous les habitants de la génération de ce père de famille le connaissent. Il s'était même installé à la colle sur Loup avec une de ses ex-compagnes qui dessine les contours d'un homme avec qui la fête était facile et les soirées ambiancées. Un homme attentionné donc, mais avec une facette sombre. En tout cas, un proche de sa famille l'assure, il n'a jamais voulu faire de mal à quelqu'un et il se souvient d'un homme qui faisait tout pour rendre son fils heureux.
Pierre Bourgès à la colle sur Loup pour RMC. En bref, le Parlement européen souhaite interdire l'importation de produits issus de la déforestation. L'accord trouvé ce matin cible plusieurs produits comme le cacao, le café, le soja ou encore l'huile de palme. Et à Strasbourg, le campement de migrants installé en centre-ville est en cours d'évacuation. Hier, la maire de Strasbourg avait annoncé intenter une action en responsabilité contre l'État pour dénoncer la prise en charge des personnes sans domicile. À 7h36 sur RMC, tout pile direct.
direction Doha.
RMC Coupe du Monde 2022.
Avec d'abord des nouvelles de nos Bleus et la reprise de l'entraînement tout à l'heure en vue de leur quart de finale face à l'Angleterre samedi après une journée de repos bien méritée hier. Côté compétition, la Croatie et le Brésil ont décroché leur ticket pour les quarts, éliminant le Japon et la Corée du Sud. Aujourd'hui au programme, suite des huitièmes, Maroc-Espagne à 16h et à 20h, Portugal-Suisse. Avec côté portugais, un Cristiano Ronaldo sur le déclin à tel point qu'il n'est plus un joueur indiscutable en sélection, Florent Germain.
Oui, Cristiano Ronaldo doit-il encore être titulaire? La question fait débat au Portugal et le quotidien sportif Abola en a même fait un sondage. 70% des votants ont répondu non. Les Portugais oublient vite, estime Pedro Mendonça, journaliste proche de la sélection.
Il y a beaucoup d'ingratitude envers Cristiano Ronaldo. Il a été grand et nous a fait gagner un euro. Au Portugal, on brûle vite ce qu'on a tant aimé.
Une réalité, Cristiano est moins performant. Il s'est même permis de bouder et de protester quand son sélectionneur la sortie lors du dernier match. Fernando Santos, justement, a recadré la star portugaise pour la première fois hier.
Si j'ai désormais vu les images, oui. Si j'ai aimé, non. Ces affaires se résolvent à la maison. C'est terminé.
Fernando Santos a ajouté qu'il ne savait pas qui jouera et qui sera capitaine contre la Suisse. CR7 débutera probablement cette rencontre, mais cette petite phrase sonne comme un avertissement de la part de son sélectionneur.
Et la Coupe du Monde, c'est évidemment à vivre, à suivre sur RMC, radio officielle de l'événement.
Et puis le quintet, Stéphane, c'est aujourd'hui à Chantilly.
Avec un départ à 13h50, voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori, c'est le numéro 12, Sitcho Boy. Leur outsider, c'est le numéro 4, Billabong 4. Le 12, le 4, le quintet, c'est évidemment à suivre en direct sur RMC Découverte.
C'était le journal de Stéphane Genest. Il est 7h37 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Le Covid, l'épidémie accélère, mais la vaccination, elle, ne suit pas. Bonjour Alain Fischer.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous avez piloté la campagne de vaccination contre le Covid pendant plus de 2 ans. On va essayer de comprendre avec vous pourquoi aujourd'hui la vaccination, ça patine.
RMC, Apolline Matin,
Apolline de Malherbe.
Il est 7h40 et vous êtes bien sûr RMC.
L'invité du jour.
L'invité du jour, c'est vous, Alain Fischer. Bonjour. Vous êtes professeur d'immunologie. Vous avez été le monsieur vaccin, comme on disait, piloté la campagne de vaccination contre le Covid pendant plus de 2 ans. Aujourd'hui, le Covid remonte, mais on a quand même l'impression que ces histoires de vaccins, les gens en ont marre. C'est ça que vous ressentez aussi, vous ?
Je pense que les gens ont une lassitude de la pandémie en général, pas particulièrement du vaccin. Les gens ont envie de penser à autre chose. Pendant longtemps, ils ont dû se confiner. Il y a eu beaucoup de contraintes dans la vie de chacun. Évidemment, il y avait aussi les vaccins, mais enfin, les injections sont pas grand-chose pour la plupart des gens. Ils le réalisent ainsi, mais ils ont plutôt envie de mettre de côté.
De passer à autre chose.
Ouais. Mais sauf que le virus, lui, évidemment, il se préoccupe pas de cela. Il mute. Il varie, on sait que c'est comme beaucoup de virus respiratoires, hein, celui de la grippe. Il est capable d'évoluer, il continue d'évoluer. Et donc, cela explique qu'il y ait des rebonds de temps en temps. Et à nouveau, il y a un rebond.
Il y a un rebond, on peut vraiment le dire comme ça? Pour vous, c'est... Alors, on arrive non, à peu près à calculer qu'on en est à la 9e vague, c'est ça?
Oui, je ne sais pas s'il faut parler de vague. Enfin, peu importe. Ce qui est sûr et certain, c'est que les cas ont été en croissance ces derniers jours, que le nombre d'hospitalisations se maintient à un niveau élevé, que malheureusement, le nombre de décès reste non négligeable, de l'ordre de 70 par jour quand même, ce qui nous rappelle malheureusement qu'au moins pour les personnes fragiles, personnes âgées et malades, le virus est une menace contre laquelle il faut lutter.
Ça reste une menace, il faut lutter. Pour l'instant, le meilleur moyen de lutter, ça reste la vaccination?
Oui, alors il ne faut pas oublier les gestes barrières. Hein. Je pense qu'il est vraiment important de rappeler qu'à chaque fois qu'on se retrouve avec un nombre important de personnes, typiquement les transports en commun, mais aussi dans certaines réunions par exemple, le port du masque est plus que bienvenu, hautement recommandé de mon point de vue. Et il ne faut pas oublier de se laver les mains, d'aérer les locaux. En fait, toutes les mesures que nous connaissons tous aujourd'hui, mais qu'on a sans doute un peu oubliées, il faut les mettre en pratique.
Hautement recommandé, dites-vous, mais pas obligatoire. Si vous étiez encore aux manettes, vous auriez dit obligatoire.
Alors, je n'ai jamais été aux manettes, j'ai conseillé. Hein. Mmh. En tout état de cause, je pense qu'aujourd'hui, à la minute, enfin, je n'exprime qu'une opinion qui ne concerne que moi. Je suis d'avis de fortement recommander ces mesures de précaution, le port du masque, Et puis voir en fond comment les choses. Le comité qui s'appelle le COVARS, qui a succédé au Conseil ainsi qu'au Conseil scientifique, travaille sur cette question. Il va faire une recommandation bientôt. Attendons de voir dans les jours qui viennent ce qu'ils vont nous dire.
Alain Fischer, les gestes barrières et donc la vaccination. Alors là encore, on s'y perd un peu. Moi, j'arrive même plus à savoir à combien de doses on est. C'est quoi ? C'est une. D'abord, combienième dose et pour qui ?
C'est un rappel. À la limite, on se fiche de savoir quel numéro de dose c'est. Ce qui compte, c'est qu'il faut que, aujourd'hui, toutes les personnes fragiles, ça veut dire plus de 60 ans, ça fait déjà beaucoup de monde, plus malheureusement des patients qui sont âgés de moins de 60 ans, mais qui ont des maladies chroniques, par exemple, différents types, maladies cardiovasculaires, cancer en train d'être traité, par exemple, les personnes immunodéprimées, qui sont particulièrement fragiles, reçoivent un rappel avec un maximum, de délai par rapport à la dernière vaccination ou la dernière infection qui vous rappelle de 6 mois pour les plus de 60 ans et même 3 mois pour les plus fragiles. Donc peu importe si on en a eu 3 ou 4, c'est pas la question.
Le rappel.
Ce qui compte, c'est rappel, si on n'a pas eu de vaccination depuis plus de 6 mois.
Avouez que c'est compliqué. C'est-à-dire que, par exemple, pendant longtemps, quand on pense qu'il y a un an et demi, nos enfants eux-mêmes devaient être vaccinés jusqu'à l'âge de 12 ans, et qu'aujourd'hui, on nous dit, c'est les plus de 60 ans. Mais est-ce que tous ceux qui nous écoutent peuvent aller se faire vacciner? C'est-à-dire, est-ce que, moi, qui ai 42 ans, je peux aller demain voir mon médecin et lui dire, je souhaite me faire vacciner et alors je serai vacciné?
Oui, bien sûr. Toute personne qui souhaite être vaccinée chez son médecin, chez son pharmacien, peut l'être et on peut certainement encourager les gens plutôt dans ce sens. Il y a notamment une partie de la population qui doit considérer plus sérieusement encore cette recommandation. Ce sont les personnes de moins de 60 ans mais qui vivent à proximité ou qui travaillent avec des personnes âgées ou fragiles.
Donc ça veut dire typiquement que les plus de 60 ans sont hautement très hautement incités à aller se faire vacciner.
Si je puis dire.
Mais les moins de 60 ans aussi, et en particulier ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles.
Pour cela, la recommandation est forte aussi.
Alain Fischer, je vais tout expliquer ce matin. En fait, la raison pour laquelle je viens vous chercher, vous, alors que vous n'êtes plus aujourd'hui ce qu'on appelait le monsieur vaccin, c'est-à-dire celui qui conseillait sur le vaccin, c'est aussi parce que vous n'avez pas eu de successeur.
Alors c'est pas tout à fait exact, c'est même pas exact du tout. Il y a eu une évolution. Il y avait donc à l'époque le conseil scientifique Jean-François Delfrécy, groupe d'experts qui a arrêté de travailler en juillet, et notre groupe Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale qui a également arrêté de travailler en juillet. Et les deux conseils sont remplacés par un nouveau comité qui s'appelle le COVARS, qui est présidé par Brigitte Autran.
Tout à fait.
Qui était d'ailleurs avec moi dans le conseil.
Mais sur la question vraiment du
vaccin. Non, mais il s'occupe. Pas que du vaccin, mais s'occupe du vaccin. Je pense que Brigitte Autran, je sais qu'elle s'est déjà exprimée.
Bien sûr.
J'ai entendu dans les médias récemment.
On l'a reçue.
J'imagine. Elle est tout à fait, je pouvais dire, elle est
mais
tout à fait compétente.
Et, ce que je veux dire, c'est que
elle va l'être progressivement.
C'était une autre période, oui. Peut-être. Mais c'est vrai que, on a quand même un peu l'impression que la question de la vaccination a été un peu moins portée. Ou en tout cas moins mise en avant ces derniers jours. En effet, il y a une sorte de sursaut ou de réveil de la part notamment du gouvernement qui, sur le masque comme sur le vaccin, incite à nouveau très fortement, comme vous le dites. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu une campagne aussi massive, aussi vive qu'il n'y avait eu il y a un an.
Oui, c'est vrai, mais il faut remettre les choses en perspective. Il y a un an, la menace du Covid était bien plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne veux pas minimiser, mais aggraver la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait vacciner massivement toute la population, progressivement, etc.
Est-ce que le pic épidémique, Alain Fischer, pourrait être coïncidé avec Noël?
Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de vous proposer une modélisation. Je trouve que ça devient très très difficile de modéliser l'évolution de l'épidémie. J'ai l'impression que le nombre de cas, enfin que l'accélération est un peu moindre ces tout derniers jours, mais franchement, je ne me lancerai pas dans ces prédictions. La seule chose que j'ai envie de dire à chacun, c'est respecter les gestes barrières, et pour les personnes fragiles et l'entourage des personnes fragiles, protégez-vous par la vaccination. C'est un acte anodin, efficace, qui protège contre les formes graves, pas complètement contre l'infection, on le sait un peu, pas complètement, mais qui protège très bien contre les formes graves de la maladie. Et on veut éviter que des gens aillent à l'hôpital, que des gens décèdent. C'est ça qu'il faut faire, c'est une évidence.
Et le message est passé. Alain Fischer, merci d'être venu dans ce studio, professeur d'immunologie et donc l'ancien monsieur vaccin du gouvernement. Il est 7h47 sur RMC et il y a Johan qui est avec nous depuis le Var. Bonjour Johan.
Et bonjour.
Johan, vous êtes infirmier libéral, et vous vouliez témoigner ce matin de votre inquiétude parce que vous avez parmi vos patients des patients qui sont sous appareil électrique et notamment appareil respiratoire, et vous vous inquiétez depuis les déclarations de la responsable d'Enedis notamment, qui disait que ils arriveraient pas à faire dans la dentelle et à protéger un par un ceux qui sont notamment sous respiratoire.
Oui, tout à fait. Non, mais c'est même pire que ça. C'est pas possible d'entendre ça, en fait. Parce que quand j'entends des chiffres que les préfets ont avec des listes de patients qui sont sous appareil, c'est faux. C'est faux. Parce que un appareil, par exemple, un lit médicalisé que j'ai besoin de lever pour faire la toilette au patient. Oui. Comment je vais faire? Donc, ça veut dire pas de chauffage, pas de lit, l'oxygène, les pompes à morphine, tout. Donc, on fait tout à l'électrique maintenant pour des besoins de toilettes. Donc, c'est pas des patients qui sont en urgence absolue. Mais comment je vais faire? Je vais expliquer à des gens qui ont vécu la guerre qu'on va couper l'électricité, qu'ils vont se retrouver sur des lits sans matelas gonflés à l'air, avec des escarres, des aggravations. Ce n'est pas possible d'entendre ça. Je vais leur expliquer que les enseignes Carrefour de magasins, les illuminations de Noël sont allumées, mais que chez eux, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de lit.
Alors, au moment où ça sera éteint, y compris du côté des enseignes. Hein. Mais oui, Johan, si on essaye de comprendre, c'est-à-dire qu'il y a deux choses que vous nous dites. Il y a d'une part le fait que les explications du gouvernement qui nous disaient non, mais pas de panique, ça c'est l'expression d'Emmanuel Macron. Et puis surtout, nous avons les listes rue par rue, nous disait-il, de ceux qui sont sous respiratoire, sous appareil. Ça, vous nous dites, c'est quasiment impossible. Et puis, vous nous expliquez que c'est les gestes quotidiens d'accompagnement des malades qui vont être compliqués. Johan, si j'essaye d'aller jusqu'au bout du scénario, ce qu'on nous dit pour l'instant, c'est que les coupures seront faibles, qu'elles arriveront de manière très 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 épisodique et qu'elles ne dureraient que 2 heures. Est-ce que vous, Johan, vous seriez en mesure, si on vous dit, demain, vous n'aurez pas d'électricité entre, 8 heures et 10 heures, vous êtes en mesure de décaler vos visites? Est-ce que pendant ces 2 heures-là, vos patients peuvent être en autonomie?
C'est impossible. Par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est sur un matelas à air, qu'on ne peut pas mobiliser. Ça veut dire que le matelas à air va se dégonfler et je ne pourrai pas le regonfler parce que le patient est dessus. Donc comment je vais faire pour enlever le patient du lit, attendre que ça regonfle, c'est-à-dire donc après les 2 heures, fois le nombre de patients que j'ai sur la tournée? C'est impossible. Je vais être obligé d'appeler les pompiers pour faire hospitaliser le patient ou pour retrouver une alternative qui n'est pas entendable.
On ne sait plus faire.
Je suis pour que mes collègues se mobilisent, c'est-à-dire attaquent l'État pour mise en danger de la vie d'autrui, des choses vraiment qui sont...
Pour vous, il y a une inquiétude vive, on le voit bien, sur tous vos gestes du quotidien pour accompagner vos malades. Merci, Johan, en tout cas, pour votre témoignage, votre réaction, votre inquiétude, on l'entend bien. Vous qui êtes donc infirmier libéral dans le Var, il est 7h50 sur RMC.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
La star des ados, le youtubeur Norman, a passé la nuit en garde à vue. Il est soupçonné de viol et de détournement de mineurs. Une affaire qui date d'il y a plus de 4 ans. Les détails dans Expliquez-nous, c'est avec Nicolas Poincaré dans un instant sur RMC.
Apolline Matin.
Le bonus RMC.
Le bonus RMC, le bonus de Charles. Charles, il y a Francky Vincent qui est nommé chevalier des arts et des lettres.
Mais oui, Apolline, le roi du zouk élevé au rang de chevalier, l'auteur des tubes Fruits de la Passion, Alice Saglis ou encore Tu veux mon zizi, est distingué, je cite, pour sa création. On pourra l'écouter un jour ensemble si vous voulez. Pour sa création dans le domaine artistique et sa contribution au rayonnement des arts et des lettres en France et dans le monde.
J'adore.
Il n'est pas la seule personnalité distinguée dans cette promo 2022, dans cet arrêté ministériel. Il y a aussi Chantal Lobby, Guillaume Gallienne ou encore Karine Viard, mais c'est sûrement le nom de Francky Vincent qui fera couler le plus d'encre cette année.
Bravo,
Francky.
RMC, Apolline Matin.
7h55, c'est l'heure de Nicolas Poincaré.
Expliquez-nous,
Nicolas. Norman, qui est un des youtubeurs les plus connus de France, est actuellement en garde à vue pour des soupçons de viol et de corruption de mineurs. Au départ de l'affaire, il a été dénoncé par une autre star de YouTube.
Oui, et on parle donc d'une histoire qui se passe dans un monde parallèle que les plus de 50 ans ne peuvent pas connaître. Squeezie, Cyprien, Norman fait des vidéos, Lama Fâché, Tipo In Shape, les Boy TV, Michou, ce sont dans l'ordre les chaînes YouTube les plus regardées. Elles ont jusqu'à 17 millions d'abonnés pour la première d'entre elles, jusqu'à 9 milliards de vues pour les vidéos. Ce sont des chaînes qui font une large place à l'humour, au stand-up, au gaming, aux jeux vidéo, ou bien encore au sport. C'est un univers très masculin. Les 10 premières chaînes YouTube appartiennent tous à des garçons, mais c'est surtout devenu une véritable industrie. Ces chaînes contribuent à l'économie française à hauteur de 600 millions d'euros par an et génèrent l'équivalent de 20 000 emplois à plein temps. C'est un phénomène générationnel. 92% des 18-34 ans regardent des vidéos YouTube tous les jours et en moyenne 50 minutes par jour. Et du coup, devinez quoi? Eh bien forcément, ces jeunes ne regardent pratiquement plus la télé et n'écoutent plus la radio.
Et c'est donc dans cet univers qu'un scandale sexuel a éclaté.
Oui, alors l'affaire a commencé il y a 4 ans. En 2018, après Balance ton porc et les révélations dans le monde du cinéma et des médias, le monde des auteurs de vidéos est à son tour touché par la vague MeToo avec le hashtag Balance ton YouTubeur. Et c'est à ce moment-là que le plus populaire de ces vidéastes, le numéro 1 français, Lucas Auchard, alias Squeezie, a porté des accusations. Sur Twitter, il avait écrit que certains YouTubeurs profitaient de leur notoriété et de la vulnérabilité de leurs fans pour obtenir des rapports sexuels. Squeezie n'avait cité aucun nom, mais les initiés avaient vite compris qu'il visait Norman Tavo. Norman Tavo, alias Norman fait des vidéos, l'animateur de la troisième chaîne YouTube française avec 12 millions d'abonnés, plus de 6 millions sur Instagram, un des pionniers des vidéos humoristiques en France. Son nom avait donc été cité, des accusations avaient été formulées, mais les témoignages sérieux s'étaient perdus au milieu de beaucoup de témoignages fantaisistes et les dénonciations n'avaient donc débouché sur aucune plainte.
L'affaire a finalement été relancée 2 ans plus tard.
Oui, en 2020, une jeune Canadienne âgée de seulement 16 ans au moment des faits accuse Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos à caractère sexuel. La jeune fille porte plainte au Canada et en France et donne une interview à un média canadien. Et c'est cette interview qui a déclenché d'autres témoignages et d'autres plaintes. D'après Libération, qui a révélé l'affaire hier, une trentaine de jeunes filles se sont manifestées, dont 5 victimes potentielles qui ont été interrogées par la police. 5 Françaises qui relatent des faits qui peuvent être qualifiés de viol et plusieurs d'entre elles étaient mineures. L'humoriste Vidéas a donc été placé en garde à vue hier au siège de la brigade des mineurs. Il pourrait être confronté à son accusatrice canadienne. En attendant, il a tout de suite été lâché par son producteur. La société Webedia a fait savoir hier qu'elle suspendait toute collaboration avec Norman.
Les explications de Nicolas Poincaré. Il est 7h57. On se retrouve dans un instant pour la météo du journal.